Il y a 50 ans, le 5 juillet 1962, l'indépendance pour l'Algérie, mais pas l'émancipation sociale des travailleurs. Le 5 juillet 1962, le peuple algérien obtenait le droit, arraché de hautes luttes, à son indépendance politique. Cette indépendance mettait fin à plus de 130 ans de colonisation française. Elle fut obtenue au terme de 8 ans d'une guerre féroce contre le pouvoir colonial. 500 000 morts, 1 million de personnes internées dans des camps, des régions dévastées par la guerre, des villages bombardés, rasés, des populations déportées ou massacrées, torturées ou exécutées sommairement par l'armée française. En Algérie, comme dans la quasi-totalité des pays colonisés, les peuples s'étaient soulevés contre la tutelle coloniale et, les uns après les autres, ils avaient réussi à arracher leur indépendance politique. La France ne fut pas à l'écart de cette tempête. Le 5 juillet, toutes les grandes villes algériennes connurent des scènes de liesse. La population algérienne avait de quoi se réjouir de cette victoire. Leur combat victorieux montrait que, lorsque les exploités sont déterminés à rejeter leur oppression, les oppresseurs n'y peuvent plus rien. Les Algériens n'étaient plus des étrangers dans leur propre pays. L'indépendance politique était enfin arrachée, mais la lutte pour l'émancipation sociale restait à mener. Le maintien de la dépendance économique au profit de l'impérialisme français. L'Algérie, marquée par un siècle et demi d'exploitation coloniale, restait cependant dépendante économiquement de l'impérialisme français. Les accords d'Évian signés le 18 mars 1962 consacraient cette dépendance, en particulier dans le domaine des industries minières, du pétrole, du gaz, qui restaient sous contrôle français. Si, au moment de la signature des accords, les dirigeants du FLN, le Front de Libération Nationale, avaient tenté de refuser la sécession du Sahara que demandait De Gaulle, ils n'avaient pu empêcher que la France garde la main sur l'exploitation des ressources minières et pétrolières du désert saharien. 1 an après l'indépendance, les entreprises pétrolières françaises empochaient 4 fois plus de bénéfices que l'Algérie. Quant aux banques françaises, elles firent des prêts au nouvel État algérien à des taux usuraires, qui entraînèrent une dépendance financière. Et il y eut toutes les contreparties imposées par la France. Quotas de produits français que le nouvel État s'engageait à acheter, en particulier de produits alimentaires. Quotas de pétrole et de gaz que l'Algérie devait fournir à la France à des tarifs préférentiels. Comme chaque pays colonial, l'Algérie avait des difficultés à se dégager de l'emprise économique du pays colonisateur. La politique du FLN, l'impasse du nationalisme. Les dirigeants du FLN, sous la direction duquel le peuple algérien mena la lutte, tentèrent de résister à cette mainmise. En vain. Car le FLN ne s'était pas battu pour bouleverser l'ordre social en Algérie et libérer les masses exploitées algériennes de l'exploitation sociale. Par ses perspectives, par son programme, le FLN était, de fait, le représentant des intérêts de la bourgeoisie algérienne dont les affaires se faisaient avec le monde impérialiste. En 1954, on lisait dans la proclamation du FLN, ouvrez les guillemets. Notre mouvement se présente sous l'étiquette de Front de Libération Nationale. Offrant la possibilité à tous les patriotes algériens de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération, fermez les guillemets. Dès le début, sous couvert de rassembler toutes les forces contre l'impérialisme français, le FLN demandait aux travailleurs et aux paysans pauvres d'Algérie d'oublier leurs intérêts propres. Et s'ils parlaient parfois de socialisme, ils ne refusaient pas de s'appuyer sur les préjugés religieux pour souder la population derrière lui. Durant toute cette guerre d'indépendance, le FLN se plaça hors du contrôle de la population qu'il disait représenter, se méfiant toujours de l'organisation autonome des masses exploitées. Il y eut certes des manifestations importantes de la population, comme celle de décembre 1960, qui furent surtout l'occasion pour les dirigeants nationalistes de montrer que la population algérienne était derrière eux. Dans la perspective d'un État algérien indépendant, les dirigeants du FLN construisirent très tôt l'embryon du futur appareil d'État, à savoir une « entre guillemets armée des frontières ». Cette armée stationnée en Tunisie devait devenir l'ossature du futur État algérien et servir, en cas de besoin, y compris contre la population algérienne elle-même. C'est dans ces rangs que furent intégrés les combattants de l'intérieur. Après une guerre des chefs, Ben Bella, un des dirigeants historiques du FLN, devint président du Conseil de l'Algérie indépendante en septembre 1962. Il fut ensuite, en 1963, le premier président élu de la République algérienne. Le régime mis en place, issu d'un soulèvement révolutionnaire qui avait mobilisé des millions d'hommes et de femmes, réussit à maintenir intact sa popularité auprès des paysans, des ouvriers, qui voyaient dans l'indépendance l'espoir de vivre mieux. Un certain nombre de mesures furent prises, dont une réforme agraire et la nationalisation d'un important secteur de l'économie. Cela permit au nouveau pouvoir de maintenir le mirage d'un, entre guillemets, socialisme arabe. Mais les masses algériennes durent vite déchanter. L'absence d'une direction communiste révolutionnaire. Le peuple algérien avait obtenu l'indépendance, mais il n'obtint pas au bout du compte la liberté et encore moins son émancipation sociale. Pourtant, il constituait une force qui aurait été d'autant plus puissante si elle s'était alliée à la classe ouvrière française. De part et d'autre de la Méditerranée, les travailleurs algériens et français étaient liés depuis des décennies par mille liens pour avoir souvent travaillé dans les mêmes usines et s'être retrouvés côte à côte dans les mêmes combats. Mais les travailleurs français avaient laissé parler en leur nom les dirigeants socialistes, ceux-là même qui généralisèrent la guerre d'Algérie, tandis que les travailleurs algériens de leur côté restaient derrière une direction nationaliste. Il aurait fallu qu'existent, de part et d'autre, des partis qui proposent aux travailleurs des deux pays d'intervenir avec une politique de classe, les unifiant en une même force afin d'offrir une perspective d'émancipation sociale et internationale. Aline Rettes.